On accueille Muriel maintenant au 39-21. Muriel, que Sana a eu hier, je préfère vous prévenir, chers amis, vous qui êtes toutes et tous très attentifs à ce qui peut se passer sur cette libre antenne, mais Sana a échangé avec Muriel hier soir à peine 10 minutes puisque c'était la fin de l'émission. Et donc Sana a proposé à Muriel de nous rappeler ce qu'elle a fait et on va l'écouter ce soir. Bonsoir Muriel.
Bonsoir. Merci de me prendre à l'antenne.
Je vous en prie. Est-ce que vous téléphonez sur un haut-parleur ou quelque chose?
Ah, okay.
Parce que
oui,
j'aimerais bien vous avoir directement. Allô?
Allô?
Ah,
oui.
Voilà. Voilà, on vous entend beaucoup mieux comme ça. D'où nous appelez-vous, ma chère Muriel?
Je suis en Occitanie, à Albi.
En Occitanie, d'accord.
Oui.
La région de Montpellier, Perpignan, tout ça.
Toulouse, ouais.
Toulouse aussi? Ah ben oui, Toulouse.
Oui, 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 moi c'est plus près de Toulouse, oui.
D'accord. Alors, hier soir, vous avez échangé avec Sana, comme je le disais.
Oui.
Bon, pour celles et ceux qui n'étaient pas là, on va recommencer tout simplement. Je vous écoute, Muriel. Qu'est-ce qui vous amène?
Alors, en fait, c'est une histoire très compliquée qui a commencé il y a 30 ans, enfin, même il y a 50 ans, puisque j'ai 51 ans.
Oui.
Voilà. Où j'ai eu une relation amoureuse très fusionnelle avec un homme pendant. Je suis restée avec lui pendant 6 ans où on partageait notre vie et aussi son métier. Et on a donné naissance à deux petites filles.
Oui.
Et voilà, les circonstances de notre vie, à un moment donné, ont été tellement complexes, difficiles à gérer pour nous. Parce que, voilà, moi à l'époque, on a eu ces grosses difficultés, j'avais 28 ans, il en avait 26. On avait un premier enfant qui avait 2 ans et une petite fille deuxième qui allait arriver. Voilà.
Et de quel type de problème parlez-vous exactement?
Alors, voilà, même moi, c'est là où je suis beaucoup dans la confusion parce que le terme qui a beaucoup été employé, c'est violence conjugale. Mais moi, je suis un peu perdue par rapport à ça parce que je crois qu'il y a eu une erreur de poser ce mot-là. Il me semble que ce mot, il est connoté de beaucoup de choses et que le drame de ma vie, c'est un peu peut-être ça, cette étiquette. Parce que si bien lui qui était étiqueté violent conjugal et moi qui étais étiqueté victime de violence conjugale,
oui.
Ça a eu des répercussions tellement grave que aujourd'hui j'en paie le prix parce qu'aujourd'hui j'en ai payé le prix pendant 30 ans hein, en fait enfin pendant 20 ans pardon les 20 dernières années enfin depuis que je suis plus avec et que du coup tout ça a eu des conséquences que j'ai pas pu vivre.
Alors,
avec
on va,
voilà,
on va
ouais.
Essayer de.
C'est compliqué.
Voilà.
Ouais,
non, mais c'est pas si compliqué que ça. C'est que il faut simplement que vous. Il faut simplement que on prenne les choses dans l'ordre et en y ajoutant quelques détails. En fait, vous parlez de violence conjugale. Donc, l'homme, oui. Le papa de vos enfants, donc votre compagnon. Oui. Vous êtes marié avec lui?
Non.
D'accord, donc on va l'appeler votre compagnon. Votre compagnon était-il violent avec vous? Est-ce qu'il vous frappait? Est-ce qu'il vous insultait? Est-ce qu'il vous séquestrait? Que faisait-il?
Alors, moi je dirais, c'est arrivé que je prenne une gifle peut-être 2-3 fois sur 6 ans.
Oui.
C'est quelqu'un qui, dans ses paroles, des fois, il pouvait vraiment vous humilier assez fort, par moment. C'était pas forcément régulier ni tout le temps, quoi. Enfin, mais ça arrivait. Après, des petites morts.
Des petits quoi, pardon?
Quand j'étais enceinte de ma première enfant, par exemple, il m'appelait grosse dondon. Vous voyez, c'est des petites. C'est,
oui.
Ça, c'est pas des grosses choses.
Oui,
vous voyez, par rapport à ce qu'on voit des fois des femmes
Oui, ce sont des humiliations quand même.
Voilà, c'est des humiliations qui passent sous le. Mais à la fois.
Sous les radars, vous voulez dire
très... Ouais, non, qui passent sous le ton de la plaisanterie
ouais.
Et qui, ma foi, me semble très, très, très courant dans le monde partout, y compris le monde de l'entreprise. Et partout, quoi. Mm-hmm. Dans les familles aussi, il me semble.
C'est possible, mais quoi qu'il arrive, lorsqu'on entend ce genre de choses, il ne faut jamais le laisser passer et bien expliquer que même sur le ton de la plaisanterie, ça n'a rien de drôle et que,
oui.
et que, voilà, que c'est humiliant, que c'est blessant et que c'est déplacé. Ma grosse oui. dondon, je pense qu'on a envie d'entendre autre chose quand on est enceinte, qu'on attend un événement heureux et que, bon, voilà, grosse dondon. Si on le traitait de grosse dondon, lui, à votre avis, à l'époque, il aurait réagi comment ?
Ah, je pense pas qu'elle aurait aimé, non. Ça, ça dépend. Voilà. Peut-être en plaisantant, il aurait. Parce que c'était. Parce que voilà. Oui.
Enfin, vous m'avez dit avoir.
Je suis d'accord avec vous que c'est pas.
Vous m'avez dit avoir pris 2-3 paires de claques en 6 ans et j'ai senti comme un ton en disant bon seulement en fait.
Mais.
Comme si en fait, mais.
Je suis conditionnée, comme ça, c'est vrai. Mais je veux dire que ça date pas de la vie avec cet homme, ça date sûrement d'avant. Mm-hmm. Parce que, moi, ça fait toute une année que vraiment je réfléchis énormément à tout ça, ça me hante, je vous dirais, parce que je vois, je me dis que, comment dire.
Vous vous dites que tout ce qui vous est arrivé. Ouais. A été conditionné parce que par tout ce que vous avez vécu, sans doute enfant et adolescente, vous avez vécu la violence enfant et adolescente ?
Pas spécialement, non. Enfin, la violence, ça dépend ce qu'on appelle violence en fait. Parce que
je sais pas, en fait, vous étiez en train de me dire ce qui m'arrivait, en fait, c'est comme si c'était normal. Donc,
Non. Je dis pas que c'est normal ni que c'est bien. Pas du tout.
D'accord.
Mais je dis que c'est courant. Mais ça veut pas dire pour ça que c'est normal et que c'est bien. Mmh.
Mais alors, ces violences, vous les avez vécues à quel niveau exactement ? Il y a ces paires de claques en 6 ans, est-ce que ça a augmenté ensuite ?
Oui, après, c'est vrai qu'il y a eu un moment où... En fait,
Le déclencheur a été l'environnement familial, l'environnement, je ne sais pas moi, professionnel. En fait, il avait des problèmes au boulot Est-ce qu'il buvait ? Est-ce qu'il a rencontré des problèmes, je ne sais pas, moi, dans sa famille ?
Parfois, il buvait, oui.
Oui.
Dans sa famille, oui, son enfance a été... Dans son enfance, il a, lui, observé beaucoup de violence autour de lui.
Ça, d'accord. Il n'en a pas été victime, il n'a fait que l'observer, vous pensez ?
Oui, je pense. Enfin, je crois que ça a dû arriver que son père soit un peu violent avec lui aussi.
D'accord.
Je pense que ça a pu arriver, mais enfin, ponctuellement,
donc,
je dirais.
Et donc, il est devenu plus violent, m'avez-vous dit ?
En fait, moi, si j'appelais, c'était parce que j'ai un problème avec ça, avec ce fait que quand on vous met une étiquette, par exemple, de victime de violence conjugale, par exemple.
Oui.
En tant que femme. Il me semble que quand on a cette espèce de laisser-passer, on peut vraiment, on peut vraiment être pris en charge. Assez, alors bien, pas bien. Moi, je trouve que j'ai pas été pris en charge du tout. Mais après, les hommes qui, eux, sont violents parfois. Des fois, de mon expérience, il m'a semblé que ça vient beaucoup, beaucoup aussi, souvent, du fait que la femme des fois peut être violente envers des hommes, parce que des hommes de maintenant, c'est pas des hommes de la génération d'avant ou d'encore avant. Et il me semble que les hommes, pour eux aussi, c'est difficile dans cette société de trouver leur place, et que cette chose de dire mon conjoint est violent sans se rendre compte que des fois, soi-même, on est la personne qui provoque cette violence, parce qu'on n'entend pas la souffrance
alors,
de l'autre.
Je pense qu'il va falloir qu'on se précise tout ça, parce qu'on a besoin d'apporter quelques précisions. Vous restez avec moi, Muriel. On fait une petite pause et puis on se reparle tout de suite, d'accord ?
Oui.
À tout de suite. Il est 23h15 sur Europe 1, vous êtes sur la libre antenne et vous pouvez composer le 39-21, 50 centimes d'euros la minute pour nous joindre. Nous sommes avec Muriel. Muriel, on essaie de préciser un peu, parce que j'aimerais bien que vous précisiez votre pensée, parce que Vous dites qu'il y a des hommes qui sont violents, mais qu'au finalement, ça n'est pas de leur faute, parce que pour eux aussi, c'est difficile, que les femmes peuvent être violentes.
Ouais, alors, ça c'est réducteur, j'ai pas dit.
Il faut prendre...
Ouais, vrai, il faut pas... Bien,
non, sûrement. Si, mais ça va. Mais ça n'est pas ce que je voulais dire. Je dis que vous faites des généralités. Or, chaque histoire de violence est une histoire de violence qui concerne deux individus, voire plusieurs, puisqu'il y a les enfants qui peuvent être touchés, il y a la famille proche. Et chaque histoire ne peut pas s'accommoder à une autre. Vous voyez, concernant votre mari, votre compagnon, votre ex-compagnon, vous semblez l'excuser de la violence dont il a été l'auteur, visiblement. Donc, dites-moi si vous trouvez des circonstances atténuantes à votre mari, parce qu'on en était à 2-3 paires de claques en 6 ans. Tout ça sur le ton, c'est pas bon, c'est pas si grave que ça.
Ouais, c'est vrai. J'ai pas parce que en fait, c'est une espèce de posture que j'ai adoptée.
Mais oui, mais il faudrait que vous m'expliquiez. Vous me dites après, il a été plus violent, donc visiblement.
En fait, voilà, ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, c'est vrai que je me suis dit, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est très coléreux, qui a du mal à gérer ses émotions et qui des fois les exprime par la violence. Et du coup, je l'ai quitté pour protéger mes filles parce que je me suis dit, si moi il peut parfois avoir ce que j'appellerais des crises avec moi, ce genre de crise, parce que les gens qui sont violents, ils ont toujours deux facettes. Ils peuvent avoir un côté très séducteur, souvent c'est le cas. Et puis, par moment, on dirait qu'ils passent dans un autre mode, où là, sûrement parce qu'ils sont blessés.
Ça peut partir n'importe
et ça,
où.
Et là, ça, voilà. Et donc, forcément, là, j'ai dit, OK, je dois quand même protéger les enfants. Donc, je suis partie me réfugier chez mes parents. J'avais 29 ans.
D'accord. Et là, on est d'accord qu'il était violent avec vous. Ça n'était pas que des paires de claques,
oui,
visiblement. C'était du lourd, quand même.
Alors, disons que, c'est sûr qu'il était conscient d'avoir ce problème, et donc ce qui se passait, c'est qu'en fait il était très absent à cette période-là.
Oui.
Et voilà aussi.
Le fait qu'il soit absent ne justifie rien. En fait, quand il rentrait, il était. Vous m'avez écrit.
Non.
Vous avez écrit.
Pas...
En fait, j'ai votre fiche devant les yeux. J'ai vécu des actes de barbarie. De sa part.
Voilà, alors ça, c'est. Voilà. Et ça s'est passé par rapport. Moi, je l'ai quitté, donc je vous dis, j'avais 29 ans.
D'accord.
Et ces actes de barbarie, c'était 2 ans après.
D'accord.
Parce qu'entre-temps, moi, je m'étais réfugiée chez mes parents, parce que j'ai senti que la situation, je ne la maîtriserais pas, que j'avais besoin de soutien.
Vous aviez besoin de protection, surtout, sans doute.
Voilà, pour moi et mes filles. Enfin, en fait, je l'ai fait, c'était pour mes filles. Parce qu'en fait, moi. Je pense que ça vient de mon enfance, que j'étais sûrement habituée à beaucoup subir. Je veux dire, à beaucoup faire passer les autres avant moi. Et ça n'a pas trop changé d'ailleurs. Je pense que j'ai été conditionnée comme ça et que je serai toujours plus ou moins comme ça. C'est-à-dire que je ressens bien les besoins de l'autre, je ressens bien peut-être trop la souffrance de l'autre et je veux toujours faire le pansement, ce qui n'est pas bon en fait. Mais ça a été un peu ma vie, c'était comme ça tout le temps.
Oui, vous voulez vous occuper de tout le monde, vous voulez... arranger les choses.
Voilà, c'est ça. Mmh. Arranger les choses. Réparer.
Oui, réparer. Voilà. Comme si, à un moment, vous étiez un peu la fautive de tout ça. C'est ce que vous avez laissé planer tout à l'heure.
Oui, c'est ça. Je me sens beaucoup responsable de beaucoup de choses.
Mmh. Pourquoi ça, à votre avis? Pourquoi?
Pourquoi ça? Alors, je pense que ça doit venir de mon enfance.
Mmh. Alors, vous m'avez dit tout à l'heure...
Voilà.
Être depuis un an. Vous m'avez dit depuis tout à l'heure être depuis un an en plein questionnement sur vous.
Oui,
donc vous entamez
oui,
visiblement, comme ça s'est passé plusieurs fois sur cette antenne, des femmes qui nous racontaient être rentrées dans une période de réflexion depuis 6 mois, depuis un an.
Profonde.
Voilà. Et quoi qu'il arrive, Muriel, je dois vous dire tout de suite que. Les choses vont doucement dans cette période d'introspection et que je peux vous poser des questions ce soir auxquelles vous n'avez pas encore de réponse. Donc ne pensez pas que vous vous exprimez mal, mais que moi je vous pose des questions et peut-être vous n'en êtes pas à cette étape-là, vous voyez, dans toutes les questions que vous vous posez.
Oui.
Donc, en fait, vous vous êtes toujours senti responsable des violences commises à la maison ? Ou est-ce que parfois, souvent. Pourquoi ouais, qu'est-ce que souvent. Vous vous disiez? Vous vous disiez quoi? Il est fatigué?
Non, mais il y a des fois où... Enfin, j'ai fait des fois des choses, je me suis blessée moi-même devant lui, parce que enfin, j'ai fait des choses qui ne le sécurisaient pas, je pense que ça n'a pas aidé. Mmh. Moi-même, j'avais une problématique. Il me semble que souvent, dans les cas de violence conjugale, les deux ont quelque chose qui ne va pas. Parce que si quelqu'un est bien, bien costaud, ne se laissera jamais violenter.
Je ne suis pas certain de ce que vous dites. Je ne suis pas certain de ce que vous dites.
Pour moi.
Oui, pour vous, parce qu'une femme, même qui est très équilibrée, peut, lorsqu'elle prend une claque ou un coup de pied comme ça, ou une violence, peut être dans un état de sidération. Elle a beau être très équilibrée dans sa vie, et elle va laisser...
Des relations quand elle dure, comme ça, dans la violence.
Mais parlons de vous, ne faisons pas de généralité.
Moi, oui. Du coup, j'ai perdu la fille.
Mais vous disiez que vous vous sentiez responsable et que vous vous blessiez. Et que donc, avoir des comportements comme cela pouvait le déstabiliser et le mettre dans une situation d'insécurité. C'est ce que vous m'avez dit.
Oui, c'est ça.
Et vous l'avez fait souvent, ça?
Non, pas souvent.
Vous le faisiez pourquoi?
Voilà, non, pas souvent.
C'était par détresse, non, que vous le faisiez?
Oui, c'était par détresse.
C'était sans doute...
Je pense que j'avais une grosse fragilité, j'avais aussi un passé... j'ai subi une tentative de viol assez jeune, et je pensais que c'était rien, puisque c'était qu'une tentative, et du coup, en fait, c'était plus que rien. Parce que maintenant, je me rends compte quand même que ça a un peu conditionné toute ma vie.
Ah oui.
Parce que justement, je n'ai pas vu que c'était grave. Puisque si tu
n'avais
rien passé...
Vous aviez quel âge?
J'avais 18 ans.
18 ans. Et c'était dans quelles circonstances? C'était quelqu'un que vous connaissiez ou pas du tout?
Non.
D'accord.
Non, c'était...
Vous avez été agressé, en fait?
Non, c'était pire que ça. Parce qu'avec le recul, j'ai compris qu'est-ce que c'était. En fait, c'était une soirée en discothèque à une époque où je sortais beaucoup avec des copines.
Oui.
Et puis, on n'avait pas de véhicule. Donc, ma copine me dit, on a trouvé quelqu'un qui va nous accompagner. Et puis, elle me met dans une voiture. Elle rentre avec. Et puis, après, elle disparaît. Elle dit, je vais chercher mon sac. Et puis, hop, la voiture débarque. Voilà, j'étais un peu piégée par cette
situation. Oui, vous avez dû avoir peur en plus.
Énormément peur, oui. Parce que même je me suis sentie, quand l'homme jetait sur moi, à un moment donné, je me suis sentie sortir de mon corps et me regarder d'en haut, avoir un calme de dingue. Ouais. Et le gars était comme en train.
Le gars était comment, vous dites? Alors, on a un petit problème technique. On va. Vous êtes revenu, Muriel? Vous êtes revenu. Alors, vous me dites si... parce que je vois sur mon écran que Muriel est toujours là. On va marquer une petite pause, si vous voulez bien, puis on va récupérer Muriel. À tout de suite.
Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
23h25 sur Europe 1. Vous êtes sur votre libre antenne. Vous pouvez composer le 39-21 et peut-être aurons-nous le plaisir d'échanger ensemble ce soir, demain, comme vous en avez envie, chers amis. Muriel, on vous a récupéré, vous êtes là. Vous en étiez donc à cette agression. Oui, vous avez eu très peur, comme vous avez eu cette sensation de quitter votre corps. C'est quelque chose que j'ai souvent entendu, plusieurs fois entendu. Et c'est vraiment lorsqu'on éprouve une situation un sentiment de terreur totale, ça. Bon, et donc vous avez réalisé. Ça s'est fini comment? Il vous a laissé partir, cet homme? Comment ça s'est terminé?
Mais attends, c'était même hallucinant parce qu'il m'a raccompagnée chez moi. Et moi, j'ai raconté ça à ma mère en rentrant chez moi et elle était carrément indifférente. Alors du coup, je me suis dit que rien n'était grave.
Votre mère n'a pas réagi?
Non. Je crois qu'elle était en train de faire la vaisselle, elle m'a écoutée et puis il n'y avait aucune réaction. Et je crois que c'était ça, pire que ce que j'avais vécu, quoi, parce que moi j'avais l'impression que j'avais, je pense que depuis j'étais un peu déconnectée avec mon corps et quelque part cette relation fusionnelle avec cet homme, ça me réparait quelque part. Je sais pas, ça paraît bizarre, hein. Peut-être.
Non.
Non.
Répétez-moi ça.
J'avais parce que après sur le, moi sexuellement j'avais un peu de difficultés quand même après ça, enfin je me sentais un peu sale, etc. Enfin j'avais honte, je pense, beaucoup, enfin, et puis je me sentais je me suis dit oula, les hommes sont dangereux, parce que je me suis dit, moi j'avais jamais pensé que en fait ils sont tellement plus forts que nous que ils peuvent nous tuer facilement. Moi j'avais imaginé qu'il allait me tuer, parce que forcément pour pas risquer quelque chose. Je me suis dit, une fois qu'il... Voilà. Donc, j'ai vraiment pensé que j'allais mourir. Donc, voilà. Après, quand même, j'avais peur des hommes, du coup. Ça, c'est sûr.
Oui.
Et cet homme-là, le père de mes enfants, je l'appelle comme ça, moi, le père de mes enfants, il était quelqu'un de très doux, en fait. Mmh. Et sur le plan affectif et intime, il était très délicat, très doux.
D'accord. Vous voyez,
c'était quelqu'un, c'est comme un enfant presque, je dirais.
Ouais.
Et moi aussi, j'étais comme un enfant, je suis encore comme un enfant.
D'accord.
À peine essayé de devenir.
Donc ça
une
se passait
femme,
plutôt bien entre vous.
Oui.
D'accord.
Et
alors,
voilà.
Ces moments où il devenait violent, ils étaient conditionnés par quoi, à votre avis, alors?
Bon, ben alors, c'était pas compliqué, parce que lui, il avait vécu une enfance avec. C'était l'enfant chéri de sa mère. Sa mère, c'était le dieu pour sa mère. Et quand, par exemple, il se faisait mal quelque part, par exemple, il se cognait quelque part sur une chaise, elle lui prenait la main, elle disait « tape la chaise ». Vous voyez, l'éducation qui rend violent.
D'accord.
C'est pourquoi je dis, des fois, violence conjugale, c'est pas forcément les hommes entièrement coupables, c'est les femmes aussi, puisqu'elles élèvent ces hommes qui deviennent violents. Et c'est aussi les compagnes qui, des fois, devraient, je sais pas... s'en aller plutôt que crier sur l'homme
Il y a deux choses dans ce que vous dites. On parlait d'éducation jeudi dernier.
Oui.
D'ailleurs, ce qui a provoqué un SMS dont je me souviens, d'ailleurs c'était l'auteur en était Carlotta, exactement, voilà, au 73921, Carlotta disait... cette femme a été brûlée, agressée, chosifiée. Tout cela n'a rien à voir avec l'éducation. C'était dit sur un ton contraire, de reproche, parce que j'avais dit qu'il fallait investir dans l'éducation. Bien sûr, ce soir, vous parlez d'éducation. Vous, qui avez été violentée, vous parlez d'une mère qui tape la chaise. Une femme n'est pas une chaise. Mais visiblement, cette mère a habitué son fils à taper tout ce qui lui faisait du mal. Et donc, quand vous lui faisiez du mal, vous, par exemple, lorsque vous aviez un comportement qui lui faisait du mal, ou quand vous faisiez du mal et que ça le mettait mal, il vous tapait.
Quand je me faisais du mal, il ne me tapait jamais. En fait, quand il me tapait, ça devait être à des moments où avec mes paroles, je devais vraiment le blesser.
D'accord. Et parce donc, que, vous considérez donc que c'est un peu de votre faute s'il vous a tapé?
Je dis pas qu'on doit taper. Non, bien sûr que sur ça, il est coupable, parce qu'on ne doit pas taper. La plupart du temps, il prenait la fuite, il s'en allait. Il
D'accord.
rentrait, il était calmé.
Et puis,
donc,
si vous
il avait la conscience de ça.
Je suppose que si vous lui disiez des noms d'oiseaux ou des paroles violentes, c'est qu'il y avait eu quelque chose avant. Vous ne les disiez pas...
En fait, quand il m'a tapé, c'était plus par jalousie. Il avait ce problème de jalousie.
Il était jaloux.
Par exemple,
d'accord.
De par sa culture et de par son enfance, parce que son père trompait sa mère assez régulièrement, et donc il voyait des disputes souvent entre ses parents et sa mère qui faisait des tentatives de suicide et lui disait, tiens, je te donne mes bijoux, tu les donneras à tes sœurs, et elle s'enfermait. Et elle s'enferme dans une pièce et voilà, le style, je disparais, je te confie mes sœurs. Et aussi, il a commencé à travailler à l'âge de 5 ans, parce qu'il était dans le milieu du spectacle avec ses parents. Et du coup, il était une source de revenus pour ses parents, et c'est bien lui souvent qui subvenait aux besoins de sa sœur et de ses sœurs et de sa mère. Voilà. Et sa mère a eu après un partenaire violent. Aussi.
D'accord. Donc, il a connu la violence, cet homme.
Voilà. Voilà.
Bon. Mais vous avez donc connu la violence. Vous êtes parti chez vos parents. Et puis, donc, vous m'avez dit avoir subi des actes après. Ça veut dire que cet homme, était jaloux et donc il a continué à vous harceler, non ?
Non, ce qui s'est passé, c'est que moi, pour garder une autonomie financière, et aussi parce que je pensais qu'on pourrait, avec un peu de recul, revenir ensemble, puisqu'on avait quand même deux enfants. Mmh. Et qu'il y avait quand même de l'amour entre nous, même s'il y avait des choses à corriger.
Oui.
Voilà. C'est ce que j'avais pensé, mais ma famille voyait les choses autrement. Mmh. Et c'est ma famille qui s'est mise à communiquer avec lui, et que tout est parti en guerre, parce que moi je pense que dans des situations comme ça, c'est comme quand on marche sur des œufs, il faut y aller avec beaucoup de douceur, et ça n'a pas été le cas. Et du coup, un jour, il est venu, j'avais un logement indépendant, parce que pendant un temps, j'étais chez mes parents, et là, j'avais eu un logement social. Il est venu et direct en arrivant, il m'a séquestré là et pendant des heures, il a menacé de tuer mes parents, de mettre le feu à leur maison, qu'il allait me défigurer, me casser les dents. Il m'a frappé, mais qu'à des endroits où ça se voyait pas trop, à part qu'il m'avait explosé la lèvre. Il m'a enfoncé un flacon de déodorant dans le vagin. Voilà, là, il a fait des choses que j'ai jamais...
Horrible.
C'est qu'aujourd'hui que j'arrive un peu à comprendre, parce que pendant plein d'années, j'ai pas compris pourquoi il a fait tout ça.
Est-ce que vous avez porté plainte contre lui à cette époque-là ?
Alors voilà, c'est ça que je voulais bien aborder. C'est la prise en charge des personnes qui subissent une chose comme ça.
Oui.
Parce que moi, la façon dont ça a été géré a fait que je l'ai occulté de mes pensées jusqu'à cette année. Vous vous rendez compte ?
Parce que vous n'avez pas porté plainte à cette époque.
Eh bien, justement, on m'a fait porter plainte. Bien sûr que la plainte a été portée, mais moi, je ne me suis pas sentie que j'ai porté plainte. J'ai senti que ma famille a porté plainte à travers moi, parce que moi, à l'époque, j'étais rien, quoi. J'étais en état de choc. J'étais en train de faire une formation professionnelle que je n'ai pas interrompue. Mmh. Vous voyez ? Et donc, moi, c'est comme si on m'a attrapée par les épaules, qu'on m'a amené au commissariat. On n'a même pas dit la moitié de ce qui s'était passé. Et du coup, quand il y a eu le procès, je pense que le juge, il ne savait pas trop si c'est une histoire de couple un peu bizarre, mais on ne sait pas trop si c'est elle, si c'est lui. Parce que lui, il était meilleur parleur que moi. Parce que moi, je ne disais rien de toute façon. Et du coup, il était condamné à 1 € symbolique.
Ah oui, carrément.
Et il a dit à ma soeur en partant, mais ça c'était par provocation, je ne pense pas qu'il était bien content de tout ce qui s'était passé. Il a dit à ce prix-là, j'ai refait ça tous les jours. Et en fait, je crois que ça voulait dire que moi j'étais devenue un objet dans ce jeu entre ma famille et lui, et que l'enjeu c'était mes filles, que mes parents préféraient protéger au cas où il y a danger. Et du coup, ils ont peut-être bien fait. Mais tout ça, ça fait que pour moi, c'est des conséquences effroyables aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, depuis un an, mes filles ne communiquent plus avec moi.
Pourquoi cela ?
Alors, pourquoi ça ? Parce que tout s'est déclenché en décembre 2019 quand ma fille aînée m'a révélé qu'elle avait subi 2 viols, dont un collectif.
Mais à quelle époque elle a subi ça ?
Entre 18 et 20 ans.
D'accord. Et en fait, elle ne vous en a pas parlé ?
Avant, jamais.
Et
parce
là,
qu'en fait, ouais.
Et là, elle, vous avez des problèmes avec elle parce qu'elle vient de vous le dire ou comment ça se passe ?
Non, parce que quand elle m'a dit ça, moi, au même moment, j'étais en conflit avec un employeur chez qui j'étais depuis 5 ans. Et du coup, en plus, elle vivait pas chez moi, elle vivait près de chez mes parents. Et c'est mes parents qui l'ont élevée, c'est mes parents qui avaient plus de liens affectifs. Moi, j'avais toujours le rôle du gendarme dans la famille. Mes parents, vous savez, après les violences subies, j'ai fini ma formation, j'ai trouvé un boulot. Évidemment, je ne l'ai pas tenu. Au bout de 6 mois, j'étais licenciée. Et mes parents, chez qui j'étais de nouveau revenue, suite au coup, je ne pouvais plus rester dans ce logement social qu'on m'avait trouvé, pourtant qui était bien, m'ont mis dehors de chez eux et installé dans un taudis, gardant mes enfants. En ne me donnant pas la possibilité, moi, de les prendre.
Comment ça, en fait? Je ne comprends pas très bien, en fait.
Oui.
Elles étaient majeures, majeures, vos enfants.
Non. Après les coups, je me dis, ça, c'était... les enfants, ils étaient petits, ils avaient 4 et 6 ans.
Ah oui, d'accord.
C'était donc, quand le père est venu et qu'il m'a fait cet acte de barbarie, là.
Oui.
Le seul vraiment vrai acte de violence, c'était oui. celui-là.
D'accord. Et donc, après, vous avez subi une mesure pour les enfants?
Non, mais comme les enfants, ils étaient habitués... Moi, je... En fait, voilà, mes parents m'avaient envoyé en hôpital psychiatrique pour me convaincre de définitivement rompre avec le père des enfants et ne plus travailler pour lui. Donc, c'est vrai que pendant que j'étais à l'hôpital psychiatrique, j'ai continué à travailler un peu pour lui parce qu'il y avait quand même besoin d'argent pour lui comme pour moi. Mais quand je suis sortie, moi, il y avait eu toutes mes affaires de travail, tous mes contacts. Pendant que j'étais hospitalisée, mes parents avaient dit que j'existais plus, que j'avais arrêté, et tout était détruit. Donc, j'avais plus de boulot,
oui.
Enfin, plus de revenus. Je vous ai dit, j'ai fait la formation professionnelle. Après, j'ai trouvé un boulot. Ils ne m'ont pas gardé à ce boulot. Et là, mes parents m'ont mis dehors. Et ils m'ont mis aussi... excusez-moi, je suis trop confuse. Disons que les psychiatres disaient comme mes parents, c'était comme un lavage de cerveau pour me convaincre qu'il fallait absolument écarter cet homme de nos vies.
Oui.
Tout en nous disant qu'il fallait que les enfants aillent chez lui. Voilà. Vous voyez ?
Oui, mais donc vous vous êtes laissé dicter les choses, en fait.
Voilà,
et je pense que c'est ce que votre fille vous reproche aujourd'hui, en fait.
Oui,
c'est de ne pas avoir pris les décisions. Mais écoutez, vous savez, Muriel, vous avez fait comme vous pouviez. Hein. Il va falloir faire vraiment un travail sur vous cette année. Depuis que vous êtes en pleine introspection, c'est très bien. Parce qu'il va falloir faire un travail sur vous et surtout vous rendre compte que vous avez vécu toute une série de situations qui n'étaient pas normales et qui étaient en plus déstabilisantes, qui étaient blessantes pour vous, et que prendre des décisions lorsque on est victime de violences comme ça, prendre des décisions quand visiblement il y a une famille qui... s'oppose à vos propres décisions à vous, à décider de mener la danse, parle avec votre ex-compagnon, ce qui a dû le rendre foudrage parce que ça n'était pas vous directement qui lui parlait. Comme votre famille lui parlait à lui directement, ils n'ont pas dû prendre de gants et ça a dû être violent entre eux, verbalement, et même au niveau des décisions. Pendant que vous étiez... finalement malade, hein, pas bien en tout cas, totalement déstabilisé. Vraiment, il faut que vous vous pardonniez ça, parce que vous, même pas, je vous dis vous pardonnez, est-ce que c'est le bon mot? Il faut que vous réalisiez en tout cas que tout ça n'est pas de votre faute. C'est que cette situation...
En partie,
arrêtez de dire en partie, parce que ça n'est pas normal de prendre des claques, ça n'est pas normal de prendre un flacon de parfum là où je pense, ça n'est pas normal d'être séquestré, ça n'est pas normal d'avoir tout ça. Donc tout ce que vous avez vécu, d'autant plus avec une situation qui remontait à vos 18 ans et dont vous ne saviez pas, mais qui vous déséquilibrait pas mal, il va falloir que vous mettiez tout ça dans l'ordre et que vous... appreniez à comprendre qu'il faut vous pardonner de ne pas avoir pris certaines décisions parce que vous n'étiez pas en capacité de les prendre.
Oui.
Vous voyez, c'est juste, vous avez été fragilisé à plein de moments et en plus de ça, en plus d'être fragilisé, il y avait des gens qui prenaient les rênes, vous voyez, qui prenaient le pouvoir,
oui, c'est ça.
Sans vous demander l'autorisation. Alors, aujourd'hui, votre fille, elle a 20 ans, elle vous fait des reproches, ça reviendra, ça s'arrêtera, parce qu'elle va aussi, elle comprendre à travers le travail que vous faites, et j'espère que vous aurez l'occasion de lui parler, et qu'elle se rende compte de ce que je vous dis, c'est que vous n'étiez pas en capacité de prendre ces décisions. Mais les enfants, ça fait toujours des reproches, vous savez, à un moment ou un autre, et puis après, ça revient. Je pense que, par contre, il vous faut aujourd'hui mener votre vie et être la capitaine de votre vie, hein, du bateau. C'est, il faut que vous, vous teniez le gouvernail et il ne faut plus que qui que ce soit décide pour vous. Donc,
merci.
Votre mère, votre père, tout ça, aujourd'hui, les relations en sont où exactement ?
Mais pour l'instant, il n'y en a plus.
Bah, c'est pas plus mal.
Ouais, c'est... Oh, merci de ce que vous m'avez dit, ça m'a fait du bien.
Mais non, mais c'est pas plus mal, parce que ils ont sans doute longtemps cru peut-être bien faire, mais ils ont mal fait. Et cet homme, il est où maintenant ? Il vous fout la paix ?
Alors, le pire de tout ça, c'est que en fait, il est décédé quand ma fille est née, elle avait 18 ans. Et c'est là qu'elle est partie complètement en live. Parce que moi, j'avais
continué à... Lorsque votre fille est née à 18 ans, c'est-à-dire ?
A eu 18 ans. Quand, en 2014, quand elle a eu 18 ans, son père s'est tué sur la route, mais on pense qu'il s'est...
Suicidé.
Enfin, on pense qu'il... Oui, voilà. Parce qu'en fait, il est arrivé le même schéma. Il était retombé amoureux d'une jeune femme dont les parents ne voulaient pas de lui. Et c'était le même schéma qu'il avait vécu avec moi.
Et ça, vos filles le savent aussi, ça ?
Oui, oui.
Les rapports sont où avec vos filles, là, aujourd'hui ?
Alors, la plus jeune, elle a essayé de reprendre contact avec moi, mais comme moi, je suis tellement chamboulée et que j'ai des griefs, je n'arrive pas à pardonner certaines choses que mes parents ont fait. Elle ne peut évidemment pas l'entendre, puisque c'est eux qui l'ont élevée. Vous le comprenez ? Mm-hmm. Et c'est ça qui pose problème. Je ne dois pas aborder ma... Voilà.
Elle est dans un conflit de loyauté entre vos parents et vous. On va faire une petite pause, si vous le voulez bien, et puis on se retrouve dans quelques instants.
Oh,
d'accord ? À tout de suite. Il est 23h44 sur Europe 1 et vous êtes sur votre libre antenne. Muriel,
oui.
Conflit de loyauté, c'est pareil. Il faut, là, du temps et il faut que vous vous occupiez de vous. Vous voyez, Patrick le routier, qui nous écoute souvent et qui est un aficionados de la libre antenne, dit que vous avez beaucoup de profondeur. Vous essayez, vous êtes dans la compréhension du processus de certaines choses qui vous sont arrivées et que vraiment il sent que vous en avez envie, vous avez envie d'y arriver, vous avez envie de vous accorder des réponses et que il faut prendre du temps pour ça. Et quoi qu'il arrive, je vais vous dire, Muriel, vous êtes dans la frustration et c'est normal, une maman elle voudrait que ça aille vite, que... ses filles lui reparlent et tout ça, mais ça n'arrivera qu'au moment où vous aurez fait un certain chemin et que vous serez en paix, vous. Vous voyez ? Il faut que vous vous accordiez ce laps de temps de vous faire ce cadeau à vous, de vous occuper de vous et de comprendre, de prendre le temps de comprendre tout ce qui s'est passé. J'ai envie de vous dire que, Dieu merci, cet homme, après, a recommencé avec quelqu'un d'autre. Et il a reproduit le même schéma. Ça va vous permettre aussi de comprendre beaucoup de choses, ça. Et notamment que vous n'y étiez pour rien. Parce que finalement, cet homme que vous disiez petit garçon souffrait d'une jalousie débordante qui le rendait impossible à vivre, visiblement.
Oui,
et il gâchait tout. Donc, quand vous allez vraiment avoir imprimé ça en vous, que vous allez avoir bien compris que toute une partie de ce qui vous est arrivé n'est pas de votre faute, vous allez voir que vous allez vous pardonner beaucoup de choses.
Mais vous savez, de plus en plus, j'arrive à me pardonner des choses avec ce gros travail, mais il y a certains petits faits que j'ai du mal à pardonner à mes parents pour l'instant. Et à la fois, je culpabilise parce que je sais qu'ils sont âgés et que je voudrais bien qu'on se retrouve avant qu'ils partent.
Oui, bien évidemment. Mais encore une fois, vous n'êtes pas seule maîtresse du temps. Vous n'êtes pas seule maîtresse de ce qui va se passer. Comprenez ça et acceptez-le.
Ok.
La meilleure manière d'y arriver, c'est de vraiment de comprendre que ça prend du temps, tout ça. Et la meilleure manière que vous allez...
J'ai pas de vie, Olivier.
Non, vous n'avez pas de vie, mais personne n'a de vie. Personne.
Oui. Mais personne. Je veux dire, du temps, j'en ai moins que si j'avais 40 ans.
Vous en avez moins, comme on dit dans votre belle Occitanie, mais vous avez 51 ans. Et donc, vous en avez plus que moins du temps encore.
Ouais, c'est vrai.
Ouais.
C'est vrai.
Bah oui, parce qu'à 51 ans, vous êtes jeune encore et vos parents ne vont pas partir maintenant. Quel âge ont-ils, vos parents ? 70 ans ?
Mon père, il a 76, ma mère, 73.
Bon, ben ça va. Ils sont en forme.
Ça va ?
Ils sont en forme. Bon, voilà.
Ma mère, mieux que mon père. Mon père, moins. Mais vous savez, ma fille aînée, elle a eu un enfant, là, il y a même pas un mois.
Et elle ne vous l'a pas présenté, je suppose ?
J'ai été informée par un oncle. Ouais, un frère à mon père. Ma famille ne me l'a même pas dit, personne ne me l'a dit.
Vous lui avez envoyé un... Vous avez son numéro de téléphone ?
J'arrête pas d'envoyer des colis.
Et elle les prend, les colis, au moins ?
Ben, j'en sais rien, j'ai pas de retour, j'ai pas de
nouvelles.
Bah,
si vous n'avez pas de retour, c'est qu'elle les prend, les colis. Donc, c'est déjà une bonne... C'est déjà une
bonne
ouais, un bon signe, c'est qu'elle ne refuse pas parfois. On avait une grand-mère l'autre jour qui envoyait des cadeaux, vous voyez, les cadeaux lui revenaient.
Oh non, c'est horrible. Mais attendez, peut-être que ça va me revenir. J'ai envoyé un chèque, il n'a pas été encaissé.
Ah, il y a combien de temps ?
3 semaines.
Bah écoutez, vous savez quoi ? S'il n'est pas encaissé d'ici là, vous faites opposition. Puis, comme me dit Florian, faites-vous plaisir, offrez-vous un bon resto avec une copine. Hein ? Parce que vous n'allez pas passer votre temps à... Hein, à Vous savez, c'est compliqué. Hein, c'est compliqué la vie, mais à un moment, il faut arrêter de courir après les autres. Et il faut s'apercevoir s'apercevoir d'une chose, c'est que vous courez après vous-même, avant tout.
C'est ça.
Et que tant que vous n'aurez pas réglé, que vous n'aurez pas retrouvé la Muriel que vous êtes, eh bien, vous aurez du mal à régler le reste. Donc, prenez soin de vous. Vous avez des copains, des copines un peu ?
Eh bien, les 10 dernières années, je vais un peu recluse. Ça, c'est encore un autre chapitre. Mais là, oui, depuis toute une année que j'ai fait ce travail d'introspection, en parallèle, je suis en train de me recréer un réseau social de relations sociales. Et aussi parce que j'ai travaillé beaucoup sur un nouveau projet professionnel. En fait, j'ai plein d'envies qui sont revenues. Et oui, moi de mon côté, j'avance pas mal.
Eh bien écoutez, c'est génial que vous avanciez bien. Et encore une fois, profitez de ces nouvelles relations. Investissez-vous dans ces nouvelles relations qui ne connaissent pas la Muriel d'avant, qui ne connaissent pas.
Ça.
Voilà, et reconstruisez-vous quelque chose de solide. Hein, vous avez 51 ans.
Merci.
Donc, même si vous dites il m'en reste moins, eh bien il en reste un peu. D'accord ? Je vous embrasse, Muriel.
Merci beaucoup.
Prenez soin
merci
de vous,
beaucoup.
Je vous en prie. Et
bravo pour votre émission.
Merci.
Elle m'a beaucoup aidée.
Bah, tant mieux. Et puis, n'hésitez pas à donner des nouvelles. Et s'il y a un coup de mou, vous me rappelez.
Ouais.
Okay,
ok.
Vraiment, n'hésitez
merci
pas.
Hein. Merci trop. Merci trop. Je vais faire comme la dame avant. Là. Je vais acheter un petit camion. Je vais me déplacer.
D'accord. Vous venez vous installer la rue des Cévennes, là, avec un yourte.
Oui, voilà, c'est ça.
Bon, je vous embrasse, Muriel.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.